Merci d'être venu.
Voici les limites par rapport aux expositions au champ de radiofréquence. L'embargo sur ce rapport a maintenant été levé et le rapport peut être téléchargé sur le site web de la Société Royale du Canada. Je m'appelle David Lazer et je suis le secrétaire des groupes d'experts pour la Société Royale du Canada et c'est moi qui vais animer la session de ce matin. Avant de présenter le docteur Demers, qui était le directeur du Centre de recherche sur la santé sur le Code de sécurité 6, tout d'abord, certains points sur le processus du groupe d'experts de la Société Royale du Canada. Et je vous parlais des procédures et de la logistique qui va être utilisée ce matin. La Société Royale du Canada et le groupe d'experts a été établi pour, au service des Canadiens. Ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir, de fournir des informations indépendantes et des informations importantes sur des sujets qui sont importants à partir d'une évaluation sur les données existantes en utilisant des champs interdisciplinaires. En établissant ce groupe d'experts, nous avons des procédures importantes avec des bonnes méthodologies afin que ces personnes sont des scientifiques reconnus et qui ont une approche sectorielle, une expertise dans les secteurs pour le problème en question. Et le comité aussi, il faut qu'il y ait un équilibre des différentes perspectives et c'est important donc pour examiner les défis en question. La Société Royale du Canada ou les bailleurs de fonds, ici c'était Santé Canada, n'a pas, donc ni la Société Royale du Canada ou les bailleurs de fonds n'ont contribué aux délibérations du groupe d'experts. La Société Royale du Canada gère le processus, mais le rapport final, c'est un produit du groupe d'experts et non pas du Société Royale du Canada. C'est le groupe, le rapport est un rapport pour la Société Royale du Canada. Donc, ce ne sont pas les personnes, ces personnes-là ne sont pas payées pour leur participation dans le groupe et ce sont des bénévoles. Et je voudrais vraiment remercier le travail énorme que le groupe a investi dans ce travail. Il est important aussi de remercier Santé Canada afin de nous fournir le financement nécessaire pour le groupe d'experts sur le Code de sécurité 6. Tout d'abord, la logistique et la procédure. Tout d'abord, donc, vous avez des écouteurs, vous pouvez écouter l'interprétation française, vous pouvez utiliser le canal 2 et le canal 1. C'est s'il y avait des questions en français, donc vous pouvez utiliser ce canal. Aujourd'hui, il y a le résumé public qui est disponible en français et en anglais, ainsi qu'il y a aussi une version seulement anglaise des recommandations, d'un résumé des recommandations. Le rapport sera disponible sur donc le site web du Société Royale du Canada et vous pouvez le télécharger dès maintenant. Il va y avoir aussi une copie papier que vous pouvez commander si vous êtes intéressé. Le rapport en français sera produit par Santé Canada d'ici quelques semaines. Le docteur Demers, dans quelques instants, va fournir donc un résumé de ce rapport. Il va répondre à des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez la main et quelqu'un va vous aider, va amener un micro. On va vouloir faire l'interprétation simultanée de la français. Donc, c'est important que vous utilisiez le microphone. Si vous voulez avoir une entrevue après la conférence de presse, vous pouvez contacter Erika à l'arrière. C'est elle qui s'occupe des communications de la Société Royale du Canada. Tout d'abord, donc maintenant je vais vous présenter le directeur du centre de Paul Demers. C'est lui qui a donc dirigé le groupe d'experts, c'est le docteur Paul Demers. C'est un épidémiologiste reconnu à la Dalhousie School of Public Health, à l'Université de Toronto. Il est aussi le directeur du centre de recherche sur le cancer professionnel, basé à Action Care Ontario. Merci beaucoup, docteur Lazor. J'espère que ce micro est branché. Je vais parler suffisamment fort. Comme vous le savez, Code Sécurité 6, ce sont les lignes directrices de Santé Canada pour l'exposition aux champs de radiofréquence. Et cela recouvre plusieurs types de fréquences radio, des transmetteurs, les champs AM, FM, des ondes de différents types. Cela inclut donc les compteurs intelligents, les téléphones cellulaires et d'autres appareils des particuliers. Santé Canada passe en revue le code de sécurité 6 et on nous a demandé donc regarder les dernières, d'examiner les dernières révisions qui ont été proposées en 2013. Avec les révisions, ce qu'on voulait faire, c'était de mettre ça en accord avec les recherches existantes et aussi de se mettre cela en accord avec les normes internationales qui changent tout le temps dans ce domaine. Donc, le code de sécurité proposé a baissé la limite afin qu'on soit en accord avec les normes internationales. Le groupe, on nous a demandé donc de réviser et d'examiner, de savoir si cela fournit une protection adéquate, s'il y a d'autres effets sur la santé qui devraient être considérés dans le code de sécurité et si d'autres mesures de précaution devraient être entreprises. Nous avons donc passé en revue la littérature scientifique en tant que groupe, c'est-à-dire sur les effets de champs radio de fréquence sur le corps, donc les notamment les organes sensibles comme l'œil, ainsi que la littérature scientifique sur les effets sur la santé, y compris le cancer, les effets neurologiques, les effets cardiovasculaires, les effets sur l'appareil reproducteur et les hypersensibilités électromagnétiques. Ce qu'on a déjà appelé idiopathic environmental endurance environnementale au champ électromagnétique. En passant en revue cela, nous avons voulions identifier les effets potentiels qui peuvent se produire au niveau en dessous donc des limites proposées par Santé Canada qui sont incluses dans le code de sécurité 6. Les restrictions de base dans les lignes directrices veulent protéger la population, donc les brûlures sur les tissus et les stimulations des nerfs périphériques. C'est-à-dire c'est un effet non thermique ici qui est associé également à l'exposition aux champs radiomagnétiques et les champs électromagnétiques. Les restrictions de base dans le code de sécurité 6 de référence donc incluent les facteurs sur la sécurité qui fournissent un autre niveau de protection qui va au-delà des niveaux auxquels ces effets potentiels sont observés. Ces facteurs de sécurité sont plus importants pour les particuliers, pour la population en général, mais il y a aussi des facteurs aussi pour les personnes qui travaillent proche des appareils émetteurs. Le groupe a conclu que ces restrictions de base sont appropriées afin de protéger les travailleurs et la population. Bien que la recherche continue sur plusieurs sujets, y compris la recherche sur le cancer, sur les effets sur les reproducteurs et les effets susmentionnés, le groupe a conclu qu'il n'y avait pas d'autres effets négatifs ou des effets nocifs avérés en dessous des limites proposées par le code de sécurité. Le groupe a aussi conclu que ces restrictions étaient appropriées afin de protéger l'œil. C'était l'une des questions qui a été posée au groupe. Le code de sécurité inclut des recommandations pour les restrictions de base, c'est-à-dire les effets que les radiofréquences ont causent à l'intérieur du corps, ainsi que les niveaux de référence. Ce sont des niveaux qui sont mesurés plus facilement par différents types de compteurs ou différents types d'appareils qui sont utilisés dans le cadre des régulations. Bien que le groupe est d'accord pour dire que les restrictions de base sont appropriées, mais il y a certains niveaux où les niveaux de référence doivent être ajustés afin de refléter la recherche et l'état des connaissances au sujet de l'incidence des champs électromagnétiques sur les enfants et sur d'autres adultes également, et des personnes qui sont dans différentes postures. Donc voilà des études qui essayent d'identifier les scénarios du pire des champs électromagnétiques, et nous avons recommandé que Santé Canada examine cela et continue d'ajuster les niveaux de référence en association avec cela. Le groupe a aussi émis des recommandations spécifiques qui vont au-delà des niveaux présents, qui incluent dans le code de sécurité 6. Nous avons émis plusieurs recommandations à Santé Canada. Vous avez vu une liste des personnes ici présentes qui ont été engagées dans ce processus. Santé Canada doit continuer donc la recherche afin de continuer d'améliorer nos connaissances sur les effets des radios, des champs de radiofréquence et notamment les effets potentiels sur le cancer. Ainsi que, il y a aussi d'autres recherches qui sont menées et qui sont identifiées et qui ont besoin d'être examinées davantage. Le groupe aussi, pendant en préparant le rapport, nous avons eu des consultations. Il y a des gens qui ont témoigné aussi et nous avons donc entendu des particuliers qui sont sensibles. Qu'on a diagnostiqué avec l'hypersensitivité électromagnétique. Bon, il y a plusieurs termes qui sont utilisés. L'Organisation mondiale de la santé utilise le terme idiopathic environmental intolerance, intolérance idiopathique, qui sont attribués à des champs électromagnétiques. Le groupe a recommandé que Santé Canada continue cette recherche afin de mieux comprendre ces affections et de trouver un traitement plus efficace. Même si le groupe n'a pas été en mesure, en examinant la littérature, nous n'avons pas vu de preuves, des données probantes pour dire que cette électrosensitivité était associée aux niveaux qui sont recommandés dans la code de sécurité 6. Nous reconnaissons qu'il y a vraiment des impacts sur la santé et on doit mieux les comprendre. Nous avons aussi recommandé que Santé Canada continue à développer une stratégie de communication afin de mieux informer le public et les fournisseurs de soins de santé sur la nature des champs de radiofréquence, ainsi que de fournir des conseils pour les personnes qui veulent diminuer leur exposition au CR ou fournir donc de tels conseils à leurs enfants. Il y a eu plusieurs recommandations aussi, vous pouvez les lire ici, et j'aimerais souligner la recommandation que nous voulons que Santé Canada développe une procédure afin qu'il y ait un processus de rapport, afin qu'il y ait des enquêtes menées pour des grappes de cas de maladies suspectées qui seraient en lien avec une exposition aux champs de radiofréquence. Voilà donc la fin de mes commentaires. Vous pouvez maintenant poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y avec votre question. Peut-être vous pouvez vous présenter rapidement.
Je comprends que vous pouvez prendre des questions en français.
I'm from the Detroit branch of the Damaris.
De Détroit, donc.
You don't speak French.
No. Je parle un peu, mais but not good enough to make sure that I would answer your questions correctly.
Okay, so let's do it.
Bien répondre. Pour résumer, le niveau de danger est plutôt faible. C'est exact. D'un point de vue de la santé publique, tout à fait. En passant en revue le code de sécurité, nous pensons que les niveaux proposés par la Santé Canada va protéger le public contre les effets connus des champs de radiofréquence. Est-ce que les gens devraient être inquiets? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est peut-être un domaine dans lequel donc il y a encore beaucoup, sur lequel il y a beaucoup encore de recherches. Je ne pense pas que les gens doivent être inquiets tant que les champs de radiofréquence sont en dessous des niveaux qui sont recommandés par Santé Canada. L'une de vos recommandations, c'est afin de mener davantage d'études sur les personnes qui disent qu'elles sont affectées. Oui, c'est exact. Il y a des personnes qui ont des symptômes qu'ils attribuent à leur exposition aux champs de radiofréquence. La recherche qui a été menée n'a pas conclu qu'il y a un lien clair entre les niveaux faibles tels que mesurés dans le code de sécurité 6 et ces symptômes. Mais ces personnes ont des problèmes de santé, ils ont des symptômes réels, et l'on doit mener davantage l'enquête là-dessus. Donc, il pourrait y avoir un problème pour certaines personnes. Est-ce que c'est exact? Donc, nous ne pensons pas, mais nous avons identifié donc, un domaine dans lequel nous devons mener plus de recherches. Mais les preuves ne mènent pas à cette conclusion. Et ils ne mentent pas, c'est pas ce que je veux dire, mais est-ce qu'il y a un problème, oui ou non? Est-ce qu'il pourrait y avoir un problème pour certaines personnes? Nous avons passé en revue la littérature scientifique et la recherche qui a été faite ne mène pas à la conclusion que ces symptômes sont attribués au champ de radiofréquence. Mais ces personnes sont malades, effectivement, donc c'est un problème réel pour les personnes qui sont malades. Mais ce que nous disons, c'est que les preuves que nous avons passées en revue ne font pas le lien entre ces problèmes et les champs de radiofréquence, en tout cas dans la littérature scientifique que nous avons passée en revue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'il y a un suivi? Vous avez mentionné qu'il y a certaines choses que le public devrait savoir pour se protéger. Quel genre de conseils voulez-vous donner au public afin de se protéger? J'ai envie de suivre mes notes, mais très simplement, c'est utiliser les systèmes de main libre et des recommandations autour de ça, c'est-à-dire éteindre les appareils quand on n'en a pas besoin. Mais ce n'est pas un domaine. Je vais vérifier ici ce que j'écris. Il y a certaines recommandations donc, qui ont déjà été faites par Santé Canada, mais on pourrait les élargir. Il y a des organisations telles que BC Center for Disease Control qui a une liste plus importante. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Non, par exemple, ne mettez pas votre téléphone cellulaire sous votre oreiller. Si vous rechargez votre téléphone cellulaire, alors ne le chargez pas à côté de votre... à côté de votre lit parce que cela envoie des signaux toute la nuit ou l'éloigner. Certaines des entreprises de téléphonie font de telles recommandations, donc il y a certaines recommandations en appliquant le principe de précaution, donc le gouvernement et les entreprises donc, font ces suggestions afin donc, de ne pas s'exposer trop à des énergies provenant des téléphones cellulaires et des radiofréquences. Sans, si on n'en a pas besoin. L'une des propriétés de base des champs de radiofréquence et d'autres formes de radiation non ionisée, c'est qu'elle diminue énormément avec la distance. Plus l'appareil est éloigné de votre corps, moins ces champs vont être nuisibles. Donc, c'est un des principes de base, bien sûr, sous-tendant toutes ces recommandations. Vous avez parlé de certaines recommandations au sujet de l'effet reproducteur au niveau de... Donc c'est notamment pour les hommes. Moi, je porte mon téléphone près à la ceinture. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Ces niveaux d'émission... des téléphones cellulaires ne présentent pas de risque. Bon, il y a aussi la chaleur qui a été mise. Donc, il y a une combinaison d'effets, c'est vrai, si vous tenez votre appareil à ce niveau. Mais nous n'avons pas été capables d'identifier des effets sur le système reproducteur pour des niveaux qui sont inclus dans le code de sécurité. Mais certainement, ça pourrait être quelque chose, un principe de précaution appliqué par le particulier afin de... Bon, pour moi, en tout cas, je garde mon téléphone dans ma poche. En tout cas, je ne le mets pas dans ma poche. Donc, c'était un... Est-ce qu'il y a une différence entre le Wi-Fi? Est-ce qu'on parle juste des radiations aussi dans tout le spectre, plutôt que si ce n'est les téléphones cellulaires? Tout d'abord, le champ de radiofréquence font partie des effets non ionisants, des radiations non ionisantes, y compris les radiations ultraviolettes. ultraviolet. Donc c'est un spectre très large. Le Wi-Fi en fait partie, mais c'est une faible part. Ça comprend aussi l'énergie qui vient des transmetteurs AM, FM, les radios, les télévisions, les compteurs intelligents et certains autres types d'outils de communication. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses à l'intérieur de ces fréquences, de ces champs de radiofréquences. On peut penser aussi aux routeurs, les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes, les radios à deux niveaux, les déclencheurs pour les voitures... les systèmes de jeu sans fil, les voitures téléguidées. Donc il y a différentes ondes et elles sont sur le spectre, à différents niveaux. Thank you. Je vais poser...
I'll leave you 2 minutes.
Sorry.
Je vais vous donner 2 minutes.
Go. Please. J'aimerais savoir un petit peu plus au niveau des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Est-ce que les radiofréquences qui émanent ont été étudiées aussi? Est-ce que ça peut être une cause? Vous parlez des cellulaires, mais j'aimerais savoir un petit peu plus sur les compteurs intelligents. You got that?
Thank you. Les compteurs intelligents vraiment font des émissions qui sont à l'intérieur de la fourchette de CS6. Ils émettent très peu de... Ils émettent moins que des téléphones cellulaires, par exemple. L'exposition la plus haute à des champs de radiofréquence sont liées aux appareils des particuliers et non pas des autres appareils transmetteurs parce qu'il y a une telle distance qui les sépare. Je ne suis pas un expert sur la transmission des compteurs intelligents, mais ce serait à des niveaux très faibles par rapport aux niveaux même qui sont recommandés dans CS6. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, alors je voudrais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Je veux remercier à nouveau le groupe, je veux remercier Paul et les autres membres du groupe d'experts et l'équipe aussi de la Société Royale du Canada. Donc, merci beaucoup.
Precisely stated, yeah. Obviously stated.